Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point sur l'environnement.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Obtenir le droit de l'information devient une nécessité pour les gens. Le rôle de la presse doit éduquer les gens. Le président Joko Widodo partira pour la Russie avant de témoigner un accord d'achat de Sukhoi. L'avion de combat coréen indonésien sera présent dans 5 ans. La Malaisie prépare une réunion trilatérale. Le Timor-Leste soutient la Papouasie comme une partie dans l'État unitaire de l'Indonésie ou NKRI. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le vice-président du Conseil indonésien de la presse, M. Ahmad Johar, dans la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse au bâtiment du Conseil indonésien de la presse à Jakarta, a déclaré mardi que la presse devenait un instrument de diffusion de l'information pour les personnes, de sorte que la presse a un rôle important de développer des connaissances des gens. La liberté de la presse devait être exprimée continuellement parce que la diffusion de l'information par la presse doit fonctionner sans menace.
Untuk menopang keberhasilan pembangunan manusia, hak atas informasi,
pour soutenir le succès du développement humain, le droit d'information de la liberté de la presse pour le dynamisme doit être tenu simultanément. Et ce n'est pas sous la pression ou la menace. La démocratie sans liberté de diffusion de l'information est impossible. Un autre, Ahmad Johar, a également déclaré que la presse, comme l'un des piliers de la démocratie, devait être maintenue pour rester libre. Cependant, la liberté d'expression par les médias doit avoir des valeurs de journalisme. La directrice générale de l'information et de la communication publique du ministère de la Communication et de l'Information, Madame Rosarita Niken Widyastuti, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse, a affirmé mardi au bâtiment indonésien du Conseil de la presse à Jakarta que des médias jouaient un rôle important pour accroître l'économie nationale. Les médias pourraient également éduquer les gens comme manifestation de développement national. Dans le contexte en Indonésie, l'étude du contenu des médias est de souligner dans le cadre du développement de la fierté de nation qui contiennent le thème de la réduction de l'écart social, l'éradication de la pauvreté et des contextes de la résolution sociale. La disponibilité du contenu des médias pourrait éduquer les gens, si bien qu'ils ont la conscience de comprendre et de développer la nation comme l'incarnation de la société. Madame Rosarita Niken Widyastuti apprécie également le rôle des médias en Indonésie qui priorise l'intérêt des gens, de la nation et de l'État, même de développer l'intérêt des affaires ainsi que l'intérêt sociopolitique dans ce pays. Le ministre indonésien de la Défense, Monsieur Yamir Zardiakudu, a déclaré que la visite du président Joko Widodo à la Russie à la mi-mai serait un témoin de l'accord d'achat d'avions de chasse Sukhoi Su-35. Yamir Zard a déclaré mardi après-midi l'Indonésie achèterait 8 avions de chasse de la Russie et auparavant l'Indonésie dispose 24 unités Sukhoi 27-30 de la Russie. Le président visitera la Corée du Sud et la Russie du 16 au 20 mai. Jokowi assistera le sommet Russie-ASEAN à Sochi pour discuter de la coopération régionale entre l'ASEAN et la Russie. En outre, selon un membre de la Commission 1 du Parlement, M. Salim Menga, l'achat d'avions de combat Sukhoi Su-35 est pour contrebalancer la puissance de la défense aérienne nationale. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie comptera sa défense aérienne à l'avion de combat fait en collaboration avec la Corée du Sud dans les 5 années à venir, comme affirmé le ministre de la Défense, M. Yamir Zardiakudu, au Palais d'État, Jakarta. Selon le ministre Zardiakudu, l'Indonésie et la Corée du Sud sont en train de finaliser ensemble le concept de l'avion qui est prévu d'être capable d'accommoder la capacité de furtivité. En outre, pour maintenir la sécurité aérienne et des frontières en Indonésie, Yamir Zard a déclaré que le gouvernement va acheter 8 unités d'avions de combat Sukhoi Su-35 de la Russie. Il n'a pas écarté que l'Indonésie peut acheter l'arsenal aérien des autres pays producteurs. Le janvier 2016, l'Indonésie et la Corée du Sud ont signé un accord d'une valeur de 1,3 milliard de dollars américains pour développer les nouveaux avions de combat. À la base d'un tel accord signé par Korea Aerospace Industry, le ministère de la Défense va inviter environ 1,6 billion de won, soit 13 milliards de rupiah, dans le programme Korea Indonesia Fighter Experimental. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, M. Sri Anifah Haji Aman, assistera au sommet trilatéral pour discuter de la coopération de la sécurité maritime à la frontière entre l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Ce dernier, vulnérable, après que le groupe militant des Philippines, surtout Abu Sayyaf, enlève des personnes à travers la nationalité. Selon la déclaration écrite de l'ambassade de Malaisie en Indonésie citée par Antara mercredi, Sri Anifah Haji Aman arrivera à Yogyakarta demain pour répondre à l'invitation de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi. Le ministre des Affaires étrangères des Philippines, José René Almendras, assistera également à une réunion des trois dirigeants des pays de l'ASEAN qui aura lieu à Yogyakarta. En outre, le chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, et les responsables militaires des deux autres pays assisteront également à cette réunion trilatérale. Concernant le plan de la coordination dans le secteur maritime, le ministère malaisien des Affaires étrangères est déterminé à collaborer avec l'Indonésie et les Philippines à maintenir la sécurité et la stabilité de la mer. L'ancien président timorais, M. José Ramos Horta, soutient la Papouasie comme une partie de l'État unitaire de l'Indonésie, ou NKRI. Par conséquent, il n'est jamais d'accord contre la lutte pour l'indépendance de la Papouasie. Cela a été déclaré par Ramos Horta dans une conférence de presse dans la ville de Jayapura en Papouasie mardi. Selon Ramos, la Papouasie est devenue une partie légitime de la République unitaire d'Indonésie. Ramos a dit qu'il était en Papouasie à l'invitation du ministre indonésien de la coordination pour la politique, M. Luhut Binsar Panjaitan. Il est très impressionné par ce que certains progrès continuent d'être réalisés par la Papouasie. Basé sur la politique du président Jokowi, ce qui libère tout le monde d'aller à la Papouasie. C'est très bon. Ramos également félicite l'amélioration des ressources humaines en Papouasie. Pendant à Jayapura, il a rencontré quelques partis, y compris le chef de la police de Papouasie, le commandant militaire de Cendrawasih, la papa du gouverneur et un certain nombre d'autres personnalités importantes. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La crise au Venezuela ». La chute des prix du pétrole force l'Arabie Saoudite de créer une nouvelle vision pour ne dépendre plus du pétrole. Cet État fait aussi le Venezuela et touché par la crise. Dans une déclaration au début 2016, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a déclaré que l'économie de son pays était en crise. Les prix du pétrole ont touché 33 dollars par baril et le prix le plus bas dans la dernière décennie. Au moins, selon le président Maduro, le prix doit atteindre de 111 dollars américains, correspond au coût de production engagé par la compagnie pétrolière. La faiblesse des prix du pétrole crée l'augmentation de l'inflation dans le pays riche en pétrole. Selon le rapport de la Banque centrale du Venezuela, le taux d'inflation a atteint 270%. Selon un économiste, Orlando Ochoa, le Venezuela est dans le processus hyperinflation. Ce pays essaie de résoudre le problème du déficit budgétaire en imprimant de l'argent qui provoque la pénurie des réserves en devises. Tout cela est arrivé à cause de la chute du prix de pétrole comme la source principale de revenus du Venezuela. Cependant, le Fonds monétaire international, ou FMI, en conforme à Orlando Ochoa. Le FMI a rappelé au gouvernement du Venezuela sur la dépendance au pétrole. Selon l'estimation du FMI, l'économie de ce pays baissera à 8% et le taux d'inflation grimpera à 700%. Au milieu de la crise, l'une des mesures prises par le gouvernement du président Maduro est d'augmenter les salaires des fonctionnaires d'au moins 30%. Cette politique vise à compenser la hausse de l'inflation. L'augmentation des salaires est en vigueur depuis la Journée internationale des travailleurs le 1er mai. Mais bien que le salaire soit augmenté, le président Nicolas Maduro a ordonné que les fonctionnaires ne travaillent désormais que 2 heures par semaine et ils reçoivent un plein salaire. L'objectif est de réaliser les économies de l'électricité. L'électricité serait rationnée 4 heures par jour dans quelques pays. La crise de l'énergie a eu lieu après que le pays a été frappé par une grave sécheresse, de sorte que le manque d'approvisionnement en eau, ce qui est la source de centrales hydroélectriques qui distribuent les 2/3 de l'énergie électrique au Venezuela. Le président Nicolas Maduro a continué le leadership du président Hugo Chavez, qui est décédé en 2013. L'opposition du pays a vivement critiqué la politique du président Maduro dans l'affaire de l'octroi de plein salaire des fonctionnaires, bien qu'il travaille seulement 2 heures, et la politique discriminatoire d'une coupure de courant. Les hommes d'affaires estiment que la crise est causée par l'incapable de Maduro de contrôler l'économie vénézuélienne. Il y a des leçons importantes de la crise qui ont frappé le Venezuela. Un pays ne devrait pas dépendre d'une seule source de déficit, telle que le pétrole brut, et la principale source d'énergie comme hydroélectricité. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis l'antenne, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec Nazi a été dissous. Le 4 mai 1945, le Parti Socialiste Nationaliste de l'Allemagne, ou Nazi, a été officiellement dissous. Le parti est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1932 et mis en œuvre une dictature et d'abus au sein du gouvernement. Le précurseur du parti nazi était le Parti des travailleurs allemands. peu de temps après Hitler a rejoint le parti en octobre 1920, le parti a changé son nom pour le parti nazi. En peu de temps, en 1921, Hitler a réussi à prendre la direction du parti nazi en raison de la capacité d'un grand discours. Dans un délai de 3 ans, Hitler a réussi à attirer des membres de moins de 6 millions de personnes en soulevant des questions hyperinflation, souffert l'Allemagne et le sort de la classe ouvrière. Après la défaite de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale, le parti nazi a dissous et a été déclaré une organisation interdite. Notre information est sur la Journée internationale des pompiers. Précédemment, le lieutenant bénévole et un pompier à Victoria en Australie, J.J. Edmondson, a proposé à la mémoire de 4 pompiers tragiques en essayant d'éteindre un grand incendie à Linton, l'Australie, le 2 décembre 1998. La proposition d'acquérir le symbole internationalement reconnu envoyé par courrier électronique au monde entier le 4 janvier 1999. Après avoir reçu la contribution de nombreuses personnes dans le monde, a finalement été élu le 4 mai comme journée internationale des incendies. Aujourd'hui est le temps pour les citoyens du monde pour récompenser le sacrifice des pompiers qui avaient contribué à sauver les gens et l'environnement. Dans ces jours, habituellement attribués à un ancien pompier qui a contribué à la société. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le séisme et le tsunami aux îles de Bangaï. Les tremblements de terre sont une série de tremblements de terre qui ont eu lieu au large des côtes des îles Bangaï, Sulawesi centrale en Indonésie. Le tremblement de terre a eu lieu le 4 mai 2000 avec une force de 6,5 sur l'échelle de Richter. Le séisme a tué au moins 54 personnes et endommagé au moins 23 000 maisons, suivi le tsunami avec des hauteurs de vagues estimées jusqu'à 3 mètres. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis de l'antenne, bonsoir. Voici donc la mise au point sur l'environnement et pour le titre, le gouvernement de Bali préserve les plantes rares. Lorsque vous visitez le bureau de l'Agence de l'environnement de Bali dans la région de Renon, la ville de Denpasar, vous trouverez une variété d'arbres rares. En fait, non seulement le bureau de l'Agence de l'environnement qui maintient les plantes rares, le journal Compass a rapporté 30 de bureaux de l'unité de travail du réalisateur de services de la province de Bali et certains bureaux des organismes régionaux et centraux qui existent à Bali plantent des plants rares, font le reboisement et font le reprocessus de déchets. Cette activité a été en cours pendant 6 mois. Cette activité est évaluée et contestée. L'équipe d'évaluation provenant de l'Université Udayana, les organisations non gouvernementales et la communauté de plantes. Le bureau qui obtient la meilleure valeur étant donné le drapeau vert en face de la porte, Un drapeau noir est un drapeau pour le bureau qui obtient une mauvaise valeur, a déclaré le chef de l'agence de l'environnement de la province de Bali, Suharjana, la fin d'avril à Kompas. La course est organisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme Bali Province Verte. Comme première étape, la course est tenue pour les bureaux du gouvernement local. Si dans quelques mois, un bureau obtient la mauvaise valeur, le gouverneur va envoyer une lettre pour que ce bureau soit considéré à déplacer. Le but est que si le gouvernement est propre, le public est facile à suivre. Chatur Yudhariani, l'un des juges du Centre de l'éducation environnementale de Bali, apprécie cette course. Selon lui, le gouvernement de Bali n'invite pas seulement les gens au programme, mais aussi avec l'action interne. L'évaluation n'est pas seulement de faire processus de déchets, il y a des juges qui évaluent l'harmonie du jardin, l'équilibre de l'immeuble, la propriété du processus de déchets et de sa gestion. Le programme de Bali Province Verte continue avec la déclaration de préparation des bureaux de la province de Bali d'utiliser zéro de l'énergie électrique en compagnie d'électricité d'État PLN. Toute l'énergie électrique prévoit d'utiliser l'énergie solaire comme source. Le développement des panneaux de LED du gouvernement central est commencé cette année par le bureau du gouverneur. L'année suivante, ce programme sera continué à d'autres bureaux du gouvernement aux temples principaux. Serge Tard, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Le vice-président du Conseil indonésien de la presse, M. Ahmad Johar, dans la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse au bâtiment du Conseil indonésien de la presse à Jakarta, a déclaré mardi que la presse devenait un instrument de diffusion de l'information pour les personnes, de sorte que la presse a un rôle important de développer des connaissances des gens. La liberté de la presse devait être exprimée continuellement parce que la diffusion de l'information par la presse doit fonctionner sans menace.
Untuk menopang keberhasilan pembangunan manusia, hak atas informasi, kebebasan.
Pour soutenir le succès du développement humain, le droit d'information de la liberté de la presse pour le dynamisme doit être tenu simultanément. Et ce n'est pas sous la pression ou la menace. La démocratie sans liberté de diffusion de l'information est impossible. Un autre, Ahmad Johar, a également déclaré que la presse, comme l'un des piliers de la démocratie, devait être maintenue pour rester libre. Cependant, la liberté d'expression par les médias doit avoir des valeurs de journalisme. La directrice générale de l'information et de la communication publique du ministère de la Communication et de l'Information, Madame Rosarita Niken Widyastuti, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse, a affirmé mardi au bâtiment indonésien du Conseil de la presse à Jakarta que des médias jouaient un rôle important pour accroître l'économie nationale. Les médias pourraient également éduquer les gens comme manifestation de développement national.
In the context of Indonesia, media content important to the...
Dans le contexte en Indonésie, l'étude du contenu des médias est de souligner dans le cadre du développement de la fierté de nation qui contient le thème de la réduction de l'écart social, l'éradication de la pauvreté et des contextes de la résolution sociale. La disponibilité du contenu des médias pourrait éduquer les gens, si bien qu'ils ont la conscience de comprendre et de développer la nation comme l'incarnation de la société. Madame Rosarita Niken Widyastuti apprécie également le rôle des médias en Indonésie qui priorise l'intérêt des gens, de la nation et de l'État, même de développer l'intérêt des affaires ainsi que l'intérêt sociopolitique dans ce pays. Le ministre indonésien de la Défense, M. Ria Mirzaryakudu, a déclaré que la visite du président Joko Widodo à la Russie à la mi-mai serait un témoin de l'accord d'achat d'avions de chasse Sukhoi Su-35. Ria Mirzad a déclaré mardi après-midi, l'Indonésie achèterait 8 avions de chasse de la Russie Et auparavant, l'Indonésie dispose 24 unités Sukhoi, 27 trains de la Russie. Le président visitera la Corée du Sud et la Russie du 16 au 20 mai. Jokowi assistera le sommet Russie-ASEAN à Sochi pour discuter de la coopération régionale entre l'ASEAN et la Russie. En outre, selon un membre de la Commission 1 du Parlement, M. Salim Menga, l'achat d'avions de combat Sukhoi Su-35 est pour contrebalancer la puissance de la défense aérienne nationale. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie comptera sa défense aérienne à l'avion de combat fait en collaboration avec la Corée du Sud dans les 5 années à venir, comme affirmé le ministre de la Défense, M. Ria Mirzaryakudu, au Palais d'État, Jakarta. Selon le ministre Ryakudu, l'Indonésie et la Corée du Sud sont en train de finaliser ensemble le concept de l'avion qui est prévu d'être capable d'accommoder la capacité de furtivité. En outre, pour maintenir la sécurité aérienne et des frontières en Indonésie, Ria Mizard a déclaré que le gouvernement va acheter 8 unités d'avions de combat Sukhoi Su-35 de la Russie. Il n'a pas écarté que l'Indonésie peut acheter l'arsenal aérien des autres pays producteurs. Le janvier 2016, l'Indonésie et la Corée du Sud ont signé un accord d'une valeur de 1,3 milliard dollars américains pour développer les nouveaux avions de combat. À la base d'un tel accord signé par Korea Aerospace Industry, le ministère de la Défense va inviter environ 1,6 billion de won, soit 13 milliards de rupiah, dans le programme Korea-Indonesia Fighter Expérimental. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, M. Sri Anifah Haji Aman, assistera au sommet trilatéral pour discuter de la coopération de la sécurité maritime à la frontière entre l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Ce dernier, vulnérable, après que le groupe militant des Philippines, surtout Abu Sayyaf, enlève des personnes à travers la nationalité. Selon la déclaration écrite de l'ambassade de Malaisie en Indonésie citée par Antara mercredi, Sri Anifah Haji Aman arrivera à Yogyakarta demain pour répondre à l'invitation de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi. Le ministre des Affaires étrangères des Philippines, José René Almendras, assistera également à une réunion des 3 dirigeants des pays de l'ASEAN qui aura lieu à Yogyakarta. En outre, le chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, et les responsables militaires des 2 autres pays assisteront également à cette réunion trilatérale. Concernant le plan de la coordination dans le secteur maritime, le ministère malaisien des Affaires étrangères est déterminé à collaborer avec l'Indonésie et les Philippines à maintenir la sécurité et la stabilité de la mer. L'ancien président timorais, M. José Ramos Horta, soutient la Papouasie comme une partie de l'État unitaire de l'Indonésie, ou NKRI. Par conséquent, il n'est jamais d'accord contre la lutte pour l'indépendance de la Papouasie. Cela a été déclaré par Ramos Horta dans une conférence de presse dans la ville de Jayapura en Papouasie mardi. Selon Ramos, la Papouasie est devenue une partie légitime de la République unitaire d'Indonésie. Ramos a dit qu'il était en Papouasie à l'invitation du ministre indonésien de la coordination pour la politique, M. Luhut Binsar Panjaitan. Il est très impressionné par ce que certains progrès continuent d'être réalisé par la Papouasie. Basé sur la politique du président Jokowi, ce qui libère tout le monde d'aller à la Papouasie. C'est très bon. Ramos également félicite l'amélioration des ressources humaines en Papouasie. Pendant à Jayapura, il a rencontré quelques partis, y compris le chef de la police de Papouasie, le commandant militaire de Cendrawasih, la Papouasie gouverneur et un certain nombre d'autres personnalités importantes. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous à nouveau dans notre magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons visiter le lac Tempe à Wajo en province de Sulawesi du Sud. Alors, restez avec nous, La Voix de l'Indonésie, le service international de Radio République Indonésia. Outre les zones courtes, vous pouvez aussi écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Cerdita, l'Indonésie a beaucoup de charme dans chaque région. L'une des régions qui a un tel charme est la province de Sulawesi du Sud, précisément à Wajo. À cette région, il y a une destination touristique à visiter, à savoir le lac Tempe. Le lac Tempe était le deuxième plus grand lac naturel sur l'île de Sulawesi. Selon les informations du ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative, le lac Tempe était aussi l'un des plus grands lacs produisant le poisson d'eau douce dans le monde. Par conséquent, vous pouvez y avoir les filets de pêche qui ont été installés autour du lac. Serjuta, le lac Tempe, situé dans le district de Tempe, la préfecture de Wajo, passe 10 districts et 51 villages. Le vaste du lac est d'environ 13 000 hectares à une altitude de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le lac est situé à environ 7 km de la ville de Sengkang, vers le bord de la rivière Walanae. Pour se rendre au lac Tempe, vous pouvez utiliser un bateau à moteur avec une capacité de 6 personnes à un coût d'environ 90 000 rupiah à 120 000 rupiah par chaque bateau. Le lac Tempe a sa propre unicité, à savoir, il y a des centaines de maisons flottantes sur pilotis. La région des maisons flottantes sur pilotis est appelée le village flottant, car il est construit sur l'eau. Ainsi, vous pouvez parcourir le lac Tempe, passer ces maisons à l'aide des bateaux. Lorsque vous parcourez ce lac, vous pouvez voir les activités quotidiennes des résidents locaux. En plus de faire ce lac comme une source de subsistance, les habitants l'utilisent aussi pour boire, se laver et se baigner. Serjuta, le lac Tempe a la biodiversité qui peut être vue à partir des nombreuses espèces de poissons, entre autres le poisson rouge, Taues ou Barbonimus goniono-blicar, le gourame bleu, et le tilapia. Le lac Tempe n'a pas seulement la biodiversité et la beauté naturelle qui ont attiré des touristes nationaux et étrangers, ce lac a l'autre attraction, à savoir la culture régionale. Donc, en plus d'être une région soutenant produisant les cultures vivrières, un centre de la production de la pêche d'eau douce, une source de sauvegarde de l'eau pour l'irrigation et les plantations autour du lac, le lac Tempe est une zone potentielle pour le développement du tourisme nautique et le tourisme culturel dans la province de Sulawesi du Sud. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le lac Tempe à Wajo en province de Sulawesi du Sud ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme «
Allez, apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, retrouvons-nous de nouveau dans l'édition Apprendre l'indonésien. Dans cette édition, nous vous présentons une conversation intitulée Candi Borobudur ou Temple Borobudur. Maintenant, je vais vous présenter les mots de vocabulaire et quelques expressions. Candi Borobudur. Candi Borobudur. En français, Temple Borobudur. Hendak pergi ke mana? Hendak pergi ke mana? En français, où allez-vous? Hari ini. Hari ini. En français, aujourd'hui. Sudah pernah mendengar. Sudah pernah mendengar. En français, avez entendu. Tentang. Tentang. En français, sur ou propos. Di mana letaknya? Di mana letaknya? En français, où est-il? Apakah jauh dari Yogyakarta? Apakah jauh dari Yogyakarta? En français, est-il loin de Yogyakarta? Letaknya sekitar? Letaknya sekitar? En français, situé à environ 40 km barat laut. 40 km barat laut. En français, 40 km au nord-ouest. Tepatnya, tepatnya, précisément, berapa luas candi? Berapa luas candi? En français, quelle est la superficie du temple? Luasnya 2500 meter persegi. Luasnya 2500 meter persegi. En français, la superficie est 2500 mètres carrés. Candi Hindu atau Buddha? Candi Hindu atau Buddha? En français, temple Hindu ou bouddhiste. Di dunia. Di dunia. En français, dans le monde. Kapan candi didirikan? Kapan candi didirikan? En français, quand le temple est construit? Dibangun pada abad ke-8 dan ke-9. Dibangun pada abad ke-8 dan ke-9. En français, a été construit au 8e et 9e siècle. Terima kasih infonya. Terima kasih infonya. En français, merci pour l'info. Kapan kita ke sana? Kapan kita ke sana? En français, quand allons-nous y arriver? Jam 9. Jam 9. En français, à 9h. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En français, très bien, merci. Maintenant, le vocabulaire et la phrase sont présentés sous la forme du dialogue afin de montrer leur utilisation dans un contexte réel. Cette conversation entre Andy A et Danu B. A. Kita hendak pergi ke mana hari ini, Danu? Kita hendak pergi ke mana hari ini, Danu? En français, où allons-nous, Danu? B. Ke Candi Borobudur. Ke Candi Borobudur. En français, nous allons au Temple Borobudur. B. Apakah Anda telah mendengar tentang Borobudur? Apakah Anda telah mendengar tentang Borobudur? En français, avez-vous entendu parler de Borobudur? A. Belum pernah. Di mana letaknya? Belum pernah. Di mana letaknya? Pas encore. Où est-il? Apakah jauh dari Yogyakarta? Apakah jauh dari Yogyakarta? En français, est-il loin de Yogyakarta? B. Letaknya sekitar 40 km barat laut Yogyakarta. Letaknya sekitar 40 km barat laut Yogyakarta. En français, il est situé à environ 40 km à l'ouest de la mer de Yogyakarta. Tepatnya di desa Boro. Tepatnya di desa Boro. En français, précisément dans le village de Boro. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. En français, la région de Magelang, Jawa Central. A. Berapa luas candinya? Berapa luas candinya? En français, quelle est la superficie du temple? Luasnya 2500 meter persegi. Luasnya 2500 meter persegi. En français, la superficie est 2500 mètres carrés. B. Borobudur itu candi Hindu atau Buddha? Borobudur itu candi Hindu atau Buddha? En français, Borobudur est le temple bouddhiste ou le temple hindou? B. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. En français, Borobudur est le plus grand temple bouddhiste dans le monde. A. Kapan candi ini didirikan? Kapan candi ini didirikan? En français, quand est-ce que Borobudur est construit? B. Candi ini dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 oleh dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Candi ini dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 oleh dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. En français, le temple a été construit au 8e et 9e siècle à l'époque de la dynastie Sailendra et Sanjaya. A. Terima kasih infonya. Terima kasih infonya. En français, merci pour l'info. Kapan kita ke sana? Kapan kita ke sana? En français, quand nous allons y aller? B. Hari ini. Kita berangkat jam 9. Hari ini, kita berangkat jam 9. En français, aujourd'hui, nous partons à 9h. A. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En français, très bien, merci. Chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Maintenant, je vous présente une rubrique musicale présentant Neno Warisman. On écoutera la première chanson, Mon Soleil. Titi Widoretno Warisman, ou mieux connu comme Neno Warisman, est né à Banyuwangi le 21 juin 1964. Depuis son enfance, il a montré son intérêt à la littérature, en particulier la poésie et déclamation. En 1978, à l'âge de 14 ans, il était le gagnant de lecture de poésie à Jakarta. Mais plus tard, elle a choisi d'être une chanteuse. En 1982, Neno Warisman est célèbre après avoir chanté une chanson « Mon soleil ». 5 ans plus tard, elle était plus célèbre après un duo avec le célèbre musicien Faris RM dans la chanson « Nadakasi ». En plus des deux précédentes chansons, une chanson intitulée Asmara ou Amour, créée par Guru Soekarnoputra, a aussi lui fait célèbre. Cher ami, on écoutera maintenant la deuxième chanson intitulée Asmara, soit amour. Après bien connue en tant que chanteuse, Neno ensuite a joué dans un film intitulé Sayekti et Hanafi. En 1989, elle a aussi joué dans le film Semua Sayang Kamu. Grâce à ce film, elle était nominée comme meilleure actrice du festival film. Avant de terminer cette rubrique, comme d'habitude, nous présenterons les deux dernières chansons intitulées Kulihat Cinta di Matamu, soit Je vois l'amour dans tes yeux. Cher ami, merci à tous. À bientôt. Yeah.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.